Europe Midi. Thierry Dagiral.
Bonjour à tous, bienvenue, il est midi et demi.
On est à la gorge, L'extérieur, déjà, on met la distance entre les clients, déjà. En plus de ça, donc, je demande des gens, est-ce que vous êtes vaccinés? Est-ce que vous avez ça? Non, c'est impossible.
La colère et l'incompréhension des restaurateurs et cafetiers, le pass sanitaire sera obligatoire à partir du début août, y compris sur les terrasses. Mais comment faire appliquer cela? Comment contrôler tout en servant? Nous serons à Cannes dans un instant. La pression sur les soignants, les non-vaccinés ne pourront plus travailler, a dit le ministre de la Santé. Vaccination obligatoire avant sanction et contrôle dès le 15 septembre. Comment réagissent les soignants? Reportage à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Doctolib est en surchauffe. Plus d'un million de connexions depuis l'allocution présidentielle hier soir. Connexion difficile, mais pression présidentielle réussie. Enfin, une première, la plus forte amende jamais infligée par l'autorité de la concurrence pour non-respect d'une de ses décisions. Et cela concerne le géant Google. Explication à venir. Les invités d'Europe Midi, comment le monde de la culture réagit aux annonces d'Emmanuel Macron? Le producteur Jean-Marc Dumonté est le président de l'Association des cinémas d'art et d'essai en direct à 12h45.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est un véritable casse-tête qui attend restaurateurs et cafetiers dans quelques semaines. Le pass sanitaire sera donc obligatoire, y compris donc en terrasse. Mais voilà comment vont faire ces professionnels pour vérifier une nouvelle contrainte qui les rend fous. Frédéric Michel, vous l'avez constaté à Cannes. Hein.
Oui, et pour de nombreux restaurateurs, l'incompréhension se mêle à la colère et au sentiment d'être une nouvelle fois des boucs émissaires, d'être mis devant le fait accompli. En installant ses tables ce matin, ce restaurateur cannois se posait beaucoup de questions.
C'est que ça depuis le début. Il y a zéro concertation, même avec nos syndicats. Hein. On nous a obligés d'avoir des QR codes pour se localiser, etc. On l'a fait, le personnel est vacciné. Mais là, après... Comment ça va se passer avec les gens? Comment on va gérer? Comment les gens vont réagir? Je ne sais pas.
Dans le flou, les restaurateurs s'inquiètent pour la suite de la saison. Michael est le patron du Richelieu dans la vieille ville de Cannes.
On est à la gorge, L'extérieur, donc on a 30 couverts. Déjà, on met la distance entre les clients, déjà. En plus de ça, donc, je demande des gens, est-ce que vous êtes vaccinés? Est-ce que vous avez ça? Non, c'est impossible.
À la Piazza, une institution cannoise, le patron Thierry redoute surtout de devoir faire la police.
On arrive tout juste à relancer l'activité qui reprend de jolies proportions. Et on est tous convaincus que ça va mettre un gros frein à notre activité, mais très vite. On espérait que ce soit une jauge limitée plutôt en intérieur, ce qui serait plus simple à gérer. Mais en terrasse extérieure, un contrôle des accédants, ça va nous obliger vraiment à faire que de la police et plus du service.
Et les restaurateurs ont jusqu'au 1er août pour s'organiser.
Frédéric Michel, correspondant Europe 1 sur la Côte d'Azur. Et puis Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui était ce matin sur Europe 1, a confirmé que le personnel des restaurants, cafés et centres commerciaux devrait avoir un pass sanitaire à jour dès l'entrée en vigueur début août de cette nouvelle obligation. L'allocution d'Emmanuel Macron a été suivie hier soir par plus de 22 millions de Français. Une incitation massive à la vaccination et conséquence, eh bien, le site Doctolib, qui permet de réserver des créneaux de vaccination, a littéralement explosé avec des difficultés de connexion. Les chiffres, Anne Le Gall, sont totalement fous. Hein.
Exactement 926 000 Français ont pris rendez-vous hier soir après l'intervention présidentielle pour caler leurs deux injections. C'est 5 fois plus que d'habitude et toutes les régions sont concernées. La grande majorité de ces rendez-vous ont été pris pour des injections en centre avec le vaccin Pfizer, mais les médecins et les pharmaciens qui vaccinent avec Moderna, AstraZeneca et Janssen font aussi face à une hausse de la demande, explique Stanislas Niox-Château, le cofondateur de Doctolib. L'engouement se poursuit d'ailleurs avec 350 000 rendez-vous vous pris ce matin.
4 à 5 000 rendez-vous sont pris par minute en ce moment et chaque Français peut choisir son centre de vaccination pour sa première et sa deuxième injection. Chaque Français peut choisir son délai entre sa première et sa deuxième injection dans la limite de 3 à 7 semaines et peut gérer ses rendez-vous en ligne puisque plus de 90% des rendez-vous ont été pris en ligne sur la journée de hier.
Et le délai moyen pour décrocher une injection étant actuellement de 11 jours, l'immense majorité des Français qui prennent rendez-vous actuellement peuvent donc en théorie être totalement vaccinés d'ici mi-août ou fin août. Ils auront donc un pass sanitaire à jour pour les activités de rentrée, mais pas forcément pour les vacances.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe. Parmi les annonces importantes d'Emmanuel Macron hier soir, il y a bien sûr la vaccination obligatoire des soignants et non-soignants des hôpitaux, cliniques, EHPAD, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile, avec contrôle donc dès le 15 septembre. Réaction à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Jean-Jacques Herry.
Entre les bâtiments hospitaliers, la première impression est que l'annonce ne surprend personne. Peut-être encore moins ceux qui sont vaccinés, comme Marie-Liesse, interne au laboratoire.
Je suis complètement d'accord avec ça. Au sein d'un hôpital, ça circule le virus, donc c'est important d'être vacciné.
Plus l'on discute avec le personnel, plus l'on s'aperçoit à quel point le sujet de la vaccination est devenu clivant dans les couloirs, presque tabou, raconte Marie, infirmière et vaccinée.
Il y a des collègues qui refusent, alors il y en a pour des raisons de santé, et d'autres parce qu'elles regardent trop les vidéos complotistes.
Les vidéos complotistes,
hein. Oui. Donc j'ai ça dans mon service, donc c'est un peu compliqué d'avoir des professionnels soignants qui croient encore à ce genre à la 5G, etc. Donc, un peu aberrant, mais bon, voilà.
Vous leur dites quoi ?
Je préfère pas en parler parce que ça m'énerve et de toute façon, on a déjà essayé de les raisonner avec les médecins, etc. Et ça ne fonctionne pas, donc c'est pour ça que je suis plutôt pour.
Puis l'on croise Aurore, aide-soignante, Charlotte Bleu sur la tête. Elle est la seule personne rencontrée à ne pas être vaccinée. Elle n'arrive pas à prendre de rendez-vous, dit-elle.
Je n'ai même pas une dose, rien du tout. Mais je me protège, j'ai mon masque et puis c'est tout. Hein. C'est pas normal. Je dois me faire vacciner.
Il faudra pourtant trouver un créneau avant le 15 septembre prochain, date à laquelle les soignants ne pourront plus travailler s'ils ne sont pas vaccinés.
Jean-Jacques Herry à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour Europe 1. Notez encore que le chef de l'État hier soir a annoncé le déremboursement des tests PCR dits de confort dès cet automne. Seront lancées également des campagnes de vaccination des lycéens, collégiens, étudiants à la rentrée, ainsi qu'une campagne de rappel également dès septembre pour les catégories vaccinées début 2021. Hier soir, donc essentiellement des annonces sanitaires, mais aussi tout un volet politique et économique. Emmanuel Macron a confirmé que la réforme contestée de l'assurance chômage serait pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre. Autre dossier attendu, celui de la réforme des retraites, dès que les conditions sanitaires seront réunies, a-t-il dit. Autant dire, Olivier Samain, que cette réforme ne sera pas réellement engagée d'ici la fin du quinquennat.
Ben oui, Emmanuel Macron a mis deux conditions à l'engagement de la réforme. Il faudra premièrement que l'épidémie soit sous contrôle et deuxièmement que la reprise soit bien assurée. La reprise bien assurée peut-être, mais l'épidémie sous contrôle, là, il faudra être patient. Le chef de l'État a lui-même dit hier soir qu'on devrait encore vivre avec le virus l'année prochaine. Conclusion, il est vraisemblable que la réforme ne soit pas engagée avant l'élection présidentielle. Mais l'important, c'est de prendre à témoin dès maintenant les Français en leur annonçant qu'il y aura bien une réforme des retraites et en demandant au gouvernement de Jean Castex d'ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux sur le sujet à la rentrée. Sauf que le contenu de la réforme ne sera plus tout à fait le même. Oubliez l'instauration d'un système universel par points. À la place, Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir, la réforme des retraites empruntera la voie plus classique d'un relèvement de l'âge de départ. Les seuls vestiges de la réforme d'origine sont la suppression des régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux entrants, a précisé hier soir Emmanuel Macron, et l'engagement d'une pension au moins égale à 1 000 euros pour tous les actifs qui auront accompli une carrière complète.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1. Et puis on verra dans un instant avec mes invités les répercussions de ces annonces dans le monde de la culture et du spectacle vivant.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
À suivre, une première, la plus forte amende jamais infligée par le gendarme français de la concurrence au géant Google. Et puis, tiens, une nuit avec des ours. Expérience inédite, immersion à suivre. À tout de suite.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
12h40, c'est une claque, une énorme claque donnée par le gendarme français de la concurrence au géant Google. Une amende de 500 millions d'euros pour ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse sur la fameuse rémunération dû aux éditeurs pour la reprise de leur contenu. Ça vaut des explications avec vous, Clément Le Saffre.
Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle les droits voisins depuis 2019 et une législation européenne. Les géants du web sont obligés de rémunérer les éditeurs de presse pour diffuser leur contenu. Alors, dans le cas de Google, ça concerne par exemple les photos que vous voyez sur Google Images ou les articles présentés sur la page Google Actualité. Des négociations sont donc en cours depuis 2 ans, mais certains médias ont accusé le géant américain de ne pas négocier de bonne foi. L'autorité de la concurrence leur a donné raison. Elle estime que Google a systématiquement imposer le cadre des discussions et limiter le champ d'application des droits voisins, d'où cette amende donc de 500 millions d'euros qui satisfait Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos, Le Parisien.
C'est une très bonne décision. À partir du moment où Google nous a dit qu'il n'appliquerait la loi sur les droits voisins que si on renonçait à nos droits voisins, c'était quand même ça le point de départ. Et depuis le début, ils gagnent beaucoup d'argent en publicité sans acheter des contenus. Et ils ont toujours cette réticence initiale à dire on va devoir payer pour donner à voir des contenus.
Voilà, et de son côté, Google se dit très déçu par cette sanction qui, selon lui, je cite, « ne reflète pas les efforts mis en place dans les négociations ». Le géant américain avance également qu'il a déjà conclu des accords avec certains médias français, insuffisants pour convaincre l'autorité de la concurrence. Google a désormais 2 mois pour se plier à ses injonctions, sous peine de se voir infliger des pénalités supplémentaires de 300 à 900 000 euros par jour de retard.
Explication signée Clément Le Saffre du service économie d'Europe. Le foot à présent, les Girondins de Bordeaux joueront bien la saison prochaine en Ligue 1. Julien Froment, ils avaient été relégués début juillet par le gendarme financier du foot français.
Oui, qui a finalement donné son feu vert et approuvé le plan de reprise de l'homme d'affaires luxembourgeois Gérard Lopez. L'ancien président de Lille a apporté des garanties financières suffisantes, mais il devra respecter des mesures très strictes, encadrement de la masse salariale et surtout obligation de vendre des joueurs avant d'en acheter. Bordeaux est donc sauvé, mais la situation reste inquiétante pour Vincent Chaudel, économiste du sport.
La situation économique lui impose de vendre ses meilleurs éléments quasiment pour équilibrer les comptes. Ou du moins pour réduire le déficit. Les meilleurs éléments vont partir. La vraie question, c'est de savoir avec quelle équipe les Girondins de Bordeaux vont pouvoir partir dans ce championnat de Ligue 1.
Et Gérard Lopez a promis à la DNCG le départ de 13 joueurs pour 41 millions d'euros et le recrutement de 9 éléments pour un montant équivalent. Alors, comme modèle, le trading, à savoir récupérer des jeunes joueurs prometteurs et les revendre l'année suivante avec une substantielle plus-value. Stratégie payante à Lille, mais qu'il a laissé avec des dizaines de millions d'euros de dettes. Pour rappel, l'homme d'affaires n'est pas encore officiellement le propriétaire de Bordeaux. Il doit attendre l'homologation du rachat par le tribunal du commerce le 20 juillet prochain. Enfin, Angers, autre club relégué en Ligue 2 à titre conservatoire, a également obtenu gain de cause en appel.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Le Tour de France départ à 13h05 en Andorre, arrivé 17h30 à Saint-Gaudens en Haute-Garonne. C'est la 16e étape ce mardi. Les Français vont-ils s'imposer avant le 14 juillet? Que peut-il arriver au maillot jaune Pogacar au début de cette 3e et dernière semaine du Tour? Vous retrouverez bien sûr Richard Virenque dans le journal de 13h. On va terminer avec une idée de nuit assez insolite. Est-ce que cela vous dirait de passer une nuit avec des ours, avec des loups? Pour cela, pas besoin de faire des kilomètres et d'aller à l'autre bout du monde. Direction le zoo Thoiry en région parisienne. Caroline Baudry a passé la nuit dernière dans une des tanières au milieu des bêtes sauvages. Reportage.
Je suis grimpée!
On accède par une échelle qui est quand même très très raide.
12 barreaux à grimper pour atteindre le paradis. Un matelas dans une cabane sur pilotis au milieu d'une réserve où Louise, 6 ans, a passé la nuit avec sa grand-mère.
Et ce matin, au réveil, on a vu les loups blancs. Et là, ils étaient juste sur la petite route à quelques mètres de là.
C'est impressionnant. Mais les petits ours sont mignons. Il y en a un qui a grimpé à l'arbre.
Et Louise leur a donné les pommes, bien sûr.
Et c'est un jus de pomme que savourent Anastasie et Yveline dans la tanière d'à côté. Un petit déjeuner avec vue après une nuit agitée.
Ça réveille pendant la nuit des petits cris. On se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ma fenêtre? Et puis on regarde.
Et de nuit, en fait, on a pu observer avec les jumelles infrarouges.
J'ai vu où ils dormaient. J'ai cherché derrière les arbres où ils étaient, etc. C'était juste exceptionnel d'avoir les ours en dessous, quoi.
L'occasion d'apprendre sur ces animaux dont beaucoup se révèlent la nuit une fois que les visiteurs du jour sont partis.
Le reportage de Caroline Baudry au zoo de Thoiry en région parisienne.